par rapport à la naissance de Jésus ou non à Bethléem. Bon, ça ne me pose pas un énorme problème, hein, mais cette histoire de recensement qui était demandé pour justifier le déplacement à Bethléem. Est-ce que historiquement, l'auteur latin en parle ? Est-ce que ça, on a des traces de ça ou pas ?
Oui, à propos aussi de la différence entre Jean et les synoptiques, le calendrier de la Passion, c'est aussi un élément important de la validité de l'évangile selon Jean.
Oui, sur les dates, c'était l'évangile qui avait été finalisé le plus tardivement, peut-être, parce qu'on dit que c'est celui qui est le plus ancien, enfin qui est le plus récent. Et par contre, effectivement, il aurait, alors vous avez, ce qu'il dit peut-être, il aurait peut-être été, la rédaction aurait peut-être commencé plus tôt, où il aurait une source beaucoup plus tardive. Ce serait le premier à avoir été, enfin, la source serait la première dans l'ordre par rapport au synoptique. Vous précisez, là.
Alors, les deux premières questions sont à l'opposé. C'est-à-dire, autant du côté du recensement, on n'en sait rien. Ça paraît même invraisemblable, la méthode de recensement qui est proposée. Il y a toute une... Depuis David, qui avait eu lieu aussi, voulu faire un recensement. Hein. Donc, il y a tout un thème, disons, narratif, romanesque, autour du recensement. Bon, ça fait partie de ce qui est un midrash, c'est-à-dire une relecture d'un donné historique. Il y a bien quelque chose sans doute derrière, mais quoi ? Et malgré tous les efforts des historiens, on n'est pas parvenu à des résultats concluants. Alors, c'est pareil pour l'étoile. Alors, ceux qui veulent chercher à quel phénomène dans l'espace peut faire référence ce texte, ce sont des topoi, comme on dit, c'est-à-dire des lieux communs de ces récits généalogiques qui existent dans la Bible, chez les païens, et donc aussi dans le christianisme. Donc, on n'a pas d'éléments. Les seuls éléments qu'on ait, c'est autour de la date d'Hérode le Grand. Ça, Hérode le Grand, il a laissé une trace dans l'histoire. Et puis, vous voyez, on n'est pas dans la pure légende, enfin, dans le pur mythe. C'est une légende. C'est-à-dire qu'il y a des points d'appui réels. Jésus, certainement, est sous Hérode le Grand. On va pas mettre ça en cause. Mais alors, le recensement, l'étoile, des mages, tout ça, on est dans un monde qui veut dire... C'est comme le prologue de Jean. Il s'agit de prologues où on prend un peu de distance par rapport justement au terrain événementiel. Chez Jean, on prend de la distance par l'intermédiaire du prologue, est aussi un midrash, c'est-à-dire une réécriture chrétienne du récit de Genèse 1. Attention, réécriture du récit de création, c'est aussi un midrash. Mais un midrash qui est moins riche en images romanesques. Tandis que les deux évangiles de l'enfance de Matthieu-Luc sont deux prologues qui, sous le mode de midrash, essaient de nous dire, avant que l'on entre dans le récit, entre guillemets, historique ou biographique, ce qu'il faut savoir avant de commencer sur la personne même de Jésus. Dans le prologue de Jean, que la demi-phrase de Marc et les deux récits de l'enfance de Matthieu-Luc sont des prologues théologiques au récit évangélique qui commence après. Mais en même temps, dans le cas de Matthieu-Luc, il y a évidemment des points qui peuvent paraître plus romanesques et d'autres plus réels. Bon, l'Annonciation, c'est à Nazareth. Bon, oui, justement, c'est à Nazareth. En ce sens, Luc est finalement peut-être plus historique que Matthieu. Hein? Luc, ça se passe à Nazareth. Bon, et puis il n'y a pas besoin de faire venir les mages et tout ça. Vous voyez, on peut se demander finalement, mais on n'est quand même pas dans un récit de type biographique. On est dans ces récits prologues qui racontent les enfances du héros, comme on disait, et qui se donnent une grande liberté par rapport aux référents historiques, le but étant de dire, avant que ne commence le récit, de qui on va parler. Et on va parler de Jésus, c'est quand même pas n'importe qui, voilà. Bon. Tandis que pour les événements de la Passion, alors là, effectivement, les quatre évangiles, c'est quand même quatre sources qui se rejoignent de façon très précise, même s'il y a des particularités dans chacun des récits. Mais là, on a quand même une attestation solide. Hein. récit de la Passion, c'est là que le récit évangélique colle le plus, en quelque sorte, au récit des faits, autant qu'on peut le savoir, avec aussi une capacité d'interprétation et peut-être des effets de recul, quelquefois, avec l'élément proprement biographique. Et c'est là que l'évangile de Jean nous donne un calendrier très intéressant, dans la mesure où il nous confirme, alors là, avec nombreuses références aussi, que Jésus n'est pas mort le jour de la Pâque, mais le jour de la veille de la Pâque, le jour de la préparation, la parasève, comme on dit en Orient. Il est né un vendredi, veille d'une Pâque qui tombait un samedi. La Pâque, c'est comme chez nous Noël, ça change tous les ans de jour. Et cette année-là, la Pâque juive tombait le sabbat. Ce qui faisait une fête doublement importante. Et il est bien clair que c'est la veille de la Passion que Jésus a été crucifié. Alors ça a des conséquences énormes. Par exemple, le dernier repas de Jésus n'est pas un repas pascal. Il n'est pas un repas pascal selon la matérialité du repas pascal juif, mais il prend toute l'importance d'un repas pascal chrétien, étant donné que la mort-résurrection de Jésus coïncide avec les célébrations juives de la Pâque. Donc il y a une interprétation de l'événement mort-résurrection de Jésus dans la chronologie du moment, mais ce n'est pas, Jésus n'est pas mort le jour de la Pâque. Et donc, il est mort la veille de la Pâque. Et d'ailleurs, on nous dit bien dans l'évangile de Jean que ce qu'on appelle les Juifs, les personnages engagés contre Jésus, ne peuvent pas entrer chez Pilate, parce qu'ils ne veulent pas se souiller avant de manger la Pâque. Donc ils mangeront le repas pascal le soir de la mort de Jésus, et c'est le lendemain, ce sera la Pâque, et en même temps le sabbat. Et chez saint Jean, il y a plein de détails qui insistent sur cette fête doublement célébrée cette année-là. Bon, quand Noël tombe un dimanche, ça ne change pas grand-chose peut-être, mais enfin, il y a la conjonction de deux fêtes du même jour. Et là, on tombe une année où la Pâque juive tombant un samedi à Shabbat, il y a une sorte de surenchère de l'importance de l'événement. Mais ça nous permet ensuite, à partir aussi de ce qu'on peut savoir des dates concernant le gouvernement de Pilate, ça nous permet de proposer la date de la mort de Jésus. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse la plus fréquente, ce serait le 7 avril 30. Le 7 avril 30, Jésus serait mort. Une année où la Pâque tombait un samedi. Coïncidant avec le gouvernement de Pilate, et puis coïncidant aussi avec ce qu'on peut savoir du début du ministère de Jésus, parce qu'il y a aussi d'autres détails qui peuvent être... Alors quand on fait un travail là, de pur historien, on arrive à la vraisemblance que la mort de Jésus pourrait être le 7 avril 30. Mais je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que vous savez bien que chaque fois qu'on veut dater un événement de l'Antiquité, il y a tellement de problèmes de conversion entre les calendriers de l'Antiquité et nos calendriers d'aujourd'hui qu'il faut être extrêmement prudent et en tout cas très compétent. Enfin, on voit bien que l'évangile de Jean, si aujourd'hui il permet aux historiens de donner une date historique précise à la mort de Jésus, c'est quand même dire que c'est un évangile qui n'est pas dénué d'intérêt historique, quand même. Vous voyez ? Et quoi qu'il y en ait par ailleurs de l'amplification théologique, de l'élévation théologique, elle n'est pas forcément contradictoire. Comme il est dit à Nathanaël, tu verras plus grand. Alors tu vois là, les disciples qui se mettent tous en mouvement, l'un va chercher l'autre, tout le monde va à Jésus, dans le milieu baptiste transjordanien, c'est probablement assez vrai du point de vue historique. Il n'empêche que cela sert de tremplin. Tu verras plus grand. Vous verrez le ciel ouvert. Alors ça, le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent sur le Fils de l'homme, évidemment, on n'est plus dans le terrain de la biographie. On est dans le terrain de l'interprétation hautement théologique. Mais elle ne détruit pas pour autant le terreau basique qui cadre Jésus en Transjordanie, dans le cercle de Jean le Baptiste, dont il est le disciple, mais au moment où il va passer devant son maître, son disciple, en devenant maître à son tour, bon, n'appelant pas les disciples, mais les laissant venir à lui, ce qui est quand même tout à fait différent, moyennant toute une série de médiations, sans rapport avec le lac et avec la figure des pêcheurs d'hommes. C'est quand même extraordinaire. Il y a vraiment deux figures opposées, là. Enfin, opposées, différentes. Toutes deux sont théologiques. Mais quelle est la plus historique? Tout plaide en faveur de Jean. sans pour autant déconsidérer la version synoptique. Car j'enseigne aussi les synoptiques avec un immense bonheur au Centre théologique de Poitiers. Je fais tout le Nouveau Testament. Alors, et croyez-moi que dans l'année où je fais Matthieu, Marc et l'année où je fais Luc, Actes, je me passionne intensément pour ces deux corpus. Mais ce n'est pas forcément du côté de la quête historique qui sont le plus pertinents. Contrairement à ce qu'on a dit souvent, Jean serait sans doute plus pertinent au point de vue de la quête historique que les synoptiques. Mais ils ont tellement d'autres qualités, et Jean aussi a tellement d'autres qualités. Justement, il a tellement d'autres qualités qu'on ne s'intéresse pas finalement à sa valeur historique. J'ai écrit un livre sur l'église chez Saint-Jean, un autre sur l'anthropologie de Saint-Jean. Parce que chez Saint-Jean, la personne du Christ tellement magnifiée, célébrée, qu'on oublie qu'il y a aussi chez Saint-Jean une anthropologie et une ecclésiologie. De même qu'il y a probablement un dossier disponible aux recherches de l'historien. Mais on est tellement fasciné par l'immense théologie, christologie johannique, qu'on oublie que l'évangile johannique, c'est un récit comme les trois autres, et donc l'analyse narrative s'impose. J'attends la sortie d'un livre qui s'appelle « Le récit johannique », où j'ai mis tout l'évangile de Jean en schéma narratif, pour prouver que tout est narratif. Jean raconte, Jésus ne fait pas de cours, Jésus raconte qui il est. L'évangéliste raconte que Jésus est le Messie, et Jésus le Messie raconte qu'il est le Fils envoyé du Père. En gros, c'est ça. Il y a deux récits qui se croisent constamment. Et les discours sont eux-mêmes des récits. Enfin, bien. Donc on a oublié que l'évangile de Jean était un récit. On a oublié que l'évangile de Jean avait, comme Paul, mais différemment, une anthropologie. Et qu'il a, comme les autres, une ecclésiologie, qui d'ailleurs est assez forte, assez différenciée aussi de celle des synoptiques. Notamment avec l'importance des personnages féminins et des personnages qui n'appartenant pas au Collège des Douze. Bon, j'ai écrit un livre là-dessus. Il y a de la liste en première page intérieure, vous verrez. Non mais, Saint Jean nous fascine tellement au plan christologique, théologique, trinitaire même. C'est une théologie trinitaire, elle est chez Saint Jean, hein, qu'on oublie que c'est aussi un évangile narratif, donc c'est aussi quelque part un document historique, entre guillemets, à vérifier, et qu'il est porteur d'une certaine vision de l'homme, anthropologie, et d'une certaine conception de l'Église, ecclésiologie, etc., etc. Bon, et alors, la date tardive, excusez-moi, c'est votre question. Bon, je ne sais pas quelles sont les dates. En tout cas, l'évangile de Jean, je veux bien croire qu'il est tardif. C'est vrai que certains textes, comme le prologue, etc., supposent un tel recul. Mais vous savez, je fais un cours sur saint Paul cette année. 25 ans après la mort de Jésus, saint Paul a déjà atteint les sommets. Ce qui veut dire que l'évangile de Jean n'est peut-être pas si tardif que ça. Et même s'il est très tardif, même s'il est très tardif, ce que tout le monde croit, il s'inscrit dans une très longue histoire rédactionnelle. Des travaux comme ceux de Boismard, autrefois à Jérusalem, nous ont permis de mesurer combien il y avait d'étapes rédactionnelles. Et les travaux sur la communauté johannique, notamment à l'école de Raymond Braun, nous ont montré que la communauté johannique avait eu un long développement. Donc l'évangile de Jean, il a commencé aussitôt que les autres. Il s'est peut-être fini plus tard, et encore faut-il prouver. Et en tout cas, ayant commencé aussitôt que les autres, même s'il a fini plus tard, il a, en certains domaines, gardé un modèle narratif plus ancien que le modèle synoptique, qui a stylisé le dossier un peu embrouillé du parcours de Jésus. Alors aujourd'hui, on a des schémas extraordinaires sur la communauté juridique. De même, hein, ça aussi, c'est il n'y a pas si longtemps, on s'est rendu compte que c'était l'évangile de Jean qui nous apprenait le plus de choses sur la communauté sous-jacente. Vous voyez, hein, la communauté de Marc, si vous en connaissez quelque chose, vous êtes bien malin. Moi, j'en sais rien. Celle de Luc, Matthieu, un peu plus. Celle de Jean. Les gens comme Raymond Braun ont réussi à reconstituer toute une trajectoire de la communauté johannique, avec justement différentes étapes. L'étape de l'apôtre Jean, fils de Zébédée, l'un des douze. On ne peut pas être plus archaïque. Mais aussi l'étape du disciple bien-aimé, qui va prendre le dessus, et qui va être le véritable auteur du livre. Même si son autorité demeure appuyée sur la figure emblématique de Jean l'apôtre. C'est pour ça que les manuscrits s'appellent l'évangile selon Jean, alors que Jean l'apôtre n'existe pas dans l'évangile, avec Jean-Baptiste, c'est tout. Et qu'un disciple bien-aimé prend peu à peu une importance considérable et peut revendiquer d'avoir été très proche de Jésus, au moins à la dernière étape de sa vie, à partir du dernier repas. Et si Jésus a séjourné déjà souvent à Jérusalem, il a pu se faire des amis comme Lazare et des disciples bien-aimés. Et si les disciples bien-aimés n'entrent dans le récit que pour le dernier repas, il est déjà l'un des proches de Jésus. La preuve, il est assis à sa droite. Il va servir d'interprète entre Jésus et Simon-Pierre, qui est probablement au bout de la table et qui ne comprend rien. Parce qu'en général, chez Saint-Jean, Simon-Pierre a beaucoup de difficultés à comprendre quelque chose. Et là aussi, il y a un conflit. Mais en même temps, il y a chapitre 21. Au plan œcuménique, c'est essentiel. C'est pour ça que l'évangile de Jean n'est pas anti-œcuménique, loin de là. Même si quelquefois, il est assez insolent dans la façon dont il soutient la communauté johannique envers et contre tout, et plus ou moins au détriment de Simon-Pierre, donc des communautés d'Antioche, de type synoptique, entre guillemets, il n'empêche qu'en Jean 21, il y a un extraordinaire mouvement œcuménique qui font que tant Pierre que le disciple bien-aimé reçoivent chacun une forme d'autorité dans une sorte de conjonction des deux parties, et sans autre référence que l'amour, et sans autre initiateur que le ressuscité. Et là, il y a quelque chose d'admirable qui se produit en Jean 21. Oui. Donc Jean 21, on dit, il est anti-juif. Non, il n'est pas anti-juif. Il est même sans doute le moins anti-juif. Le seul problème, c'est qu'il faut dire sept fois les juifs, alors disons les judéens, pour le récit de la Passion, mais je ne dirai pas les judéens partout. Je répète, c'est dans l'évangile de Jean que Jésus, notre Seigneur, dit que le salut vient des juifs. Si vous traduisez le bien des judéens, vous avez dégonflé ce ballon qui est prodigieux. Enfin, c'est mis dans la bouche de Jésus chez saint Jean. Vous savez, quand Jésus parle, c'est l'autorité indépassable. Ce n'est pas une vague rumeur. Le salut vient des juifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des judéens. Surtout à la samaritaine. Hein? Voyez, comme c'est capital. Allez, oui, trois questions. Excusez, on est long.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle de la communauté johannique, ou, pour formuler ça un peu autrement, des liens entre les épîtres, l'Apocalypse et l'Évangile?
Raymond Brown, il n'est pas le seul. Catholique américain, ayant d'ailleurs longtemps enseigné dans un séminaire écuménique aux États-Unis, enfin quelqu'un de très très ouvert. Il est maintenant décédé, mais il y en a eu d'autres avant lui, mais c'est lui qui a vraiment thématisé et fait connaître en France aussi tout le travail sur la communauté johannique. Alors, la communauté johannique, la méthode de Raymond Brown est de dire, quand l'évangile de Jean dit des choses différentes des synoptiques, il dit indirectement quelque chose qui est propre à sa communauté. Par exemple, si dans l'évangile de Jean, l'enracinement baptiste de Jésus est beaucoup plus fort qu'ailleurs, c'est que la communauté johannique était elle-même probablement d'origine baptiste. Alors, on peut contester la méthode, mais enfin, en gros, c'est ça le méthode. Alors, il va découvrir ainsi que la communauté johannique est probablement issue du baptisme transjordanien, donc que Jésus a fréquenté à ses débuts. Bien. Deuxièmement, que la communauté johannique a certainement à un moment donné, entrer en contact avec les Samaritains. Bon. Et la preuve, l'importance de la Samaritaine est dans l'évangile de Jean, c'est incroyable. Bon. Que si l'évangile de Jean le raconte, c'est parce qu'il s'y reconnaît, c'est pas uniquement par souci d'objectivité historique, c'est parce qu'il s'y reconnaît. Bon. De même, des contacts avec les milieux sacerdotaux de Jérusalem, etc. Bon. Ou bien, d'une relation au monde pharisien, qui n'est pas conflictuelle, mais qui est diversifié. Bon, on arrive à reconstituer comme ça tout un fil, et alors, comment dire, cela donne naissance à l'évangile, alors, qui probablement part de la prédication de Jean l'apôtre, est systématiquement reprise en main par l'auteur de génie qui s'appelle le disciple bien-aimé, et qui ne nous donne pas son nom, parce qu'il a des raisons, justement, à ne pas à ne pas se présenter. Il a un pseudonyme. Alors ça, on ne réglera pas ça ce soir, c'est un immense travail. Pourquoi le disciple bien-aimé avance-t-il masqué alors qu'il dit que son message est tellement important? Pourquoi se cache-t-il tout en s'affirmant? Et à la fin du processus, il y a probablement un dernier auteur qui est peut-être le presbyte des épîtres, qui va finalement, semble-t-il, achever le travail. Donc on peut imaginer trois grandes époques, hein, l'époque de Jean l'Apôtre, l'époque du disciple bien-aimé, encore Boismard distingue avant 70 et après 70. Donc Boismard désigne un grand Jean 1 en chiffres romains, un Jean 2A, Jean 2B, et un Jean 3, bon, bien, c'est compliqué. Et alors, le résultat, c'est que, à la fin de ce parcours, la communauté johannique a vécu une crise extrêmement grave, dont les épîtres sont, en quelque sorte, font le reportage, tout en essayant de trouver une solution. Et manifestement, les épîtres échouent à réconcilier la communauté. Et c'est pour ça que Jean 21 viendrait après les épîtres. Cette communauté très forte, très identitaire, hein, peut-être un petit peu sectaire, mais tellement puissante, a fini par se briser. Et ça, la première épître de Jean est terrible. Elle fait la description du schisme qui est d'une violence extraordinaire. Et le presbytre, auteur des épîtres, il tente de retrouver l'unité, notamment en prêchant une sorte de réinterprétation de l'Évangile, notamment dans le sens du concret. L'Évangile a peut-être été lu par des gens tentés d'un certain gnosticisme, qui n'est pas dans l'Évangile, mais qui peut être dans sa réception. Et le disciple bien-aimé, le presbytre des épîtres recadre l'Évangile sur la réalité humaine de Jésus et la réalité concrète des frères dans la communauté. Un double recentrement sur l'humanité de Jésus et l'humanité des frères. Et on dit aujourd'hui que les épîtres de Jean sont comme une sorte de manuel pour nous dire « Attention, ne lisez pas l'évangile de Jean comme s'il était désincarné. » C'est un rapport avec l'histoire. Désincarné, donc déshistoricisé. Ça, c'est un contresens. Bon. Et alors, n'ayant pas réussi à ramener la paix, il semblerait que le chapitre 21 se vienne encore après les épîtres, et soit justement le moment écuménique. Comprenez, il faut bien à un moment ou à un autre dépasser les conflits. Et ce que je dis dans Jean 21, qui est extraordinaire, c'est que la communauté johannique découvre qu'elle a certes raison, mais qu'elle n'a pas raison tout seul. Voilà. C'est ça l'écuménisme. Hein. On a tous raison, mais on n'a pas raison tout seul. C'est ça le problème. Et quand on veut avoir raison tout seul, eh ben, on recule. On a tous raison, à notre façon, mais pas raison tout seul. Et le chapitre 21, c'est là les deux grands courants, le courant pétrinien et le courant du disciple bien-aimé, qui vont se retrouver remis en communion et recentrés sur l'essentiel, Pierre m'aimes-tu. Oui, voilà. C'est tout, hein. C'est l'amour. En réponse au Christ, c'est ça, c'est pas l'idéologie, c'est pas la doctrine, c'est pas Pierre, il se crée quelque chose. Donc on parle aujourd'hui d'une trajectoire johannique. Alors j'ai pas parlé de l'Apocalypse, qui appartient certainement au milieu johannique d'Asie mineure, la région d'Éphèse, de Patmos, etc., qui a été écrite, alors elle en 95, c'est extraordinaire, c'est le seul texte du Nouveau Testament, même de toute la Bible qu'on peut dater, de façon très précise, c'est vraiment, tous les auteurs sont d'accord, même les orthodoxes, de Patmos, on est d'accord, pour 95, c'est un moment où le règne de Domitien bascule dans un certain despotisme, totalitarisme d'État, etc. Bon, et alors là, c'est une branche du johannisme qui va se déployer. Qui est Jean? Est-ce que c'est un quatrième auteur, le prophète Jean? Ou est-ce que c'est une façon de se placer sous l'autorité de Jean l'apôtre qui est mort il y a très longtemps, en sachant que ceux qui écrivent l'Apocalypse, ben, ce sont des prophètes des communautés, des sept églises d'Asie mineure. Bon. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'école johannique, elle a une Apocalypse entière, mais que à l'intérieur même de l'Évangile, eh bien, il y a une sorte de recul à l'égard des modèles d'Apocalypse. Il n'y a pas d'Apocalypse synoptique le grand discours apocalyptique de Jésus, comme en Matthieu, Marc, Luc. Il n'y a pas de transfiguration, qui est un récit typiquement apocalyptique, avec l'ouverture de la voûte céleste, la montée, la descente, etc. Le baptême de Jésus, qui est un récit apocalyptique, est très limité chez Jean, tout juste une allusion dans la bouche de Jean-Baptiste, il n'est pas décrit. Donc l'évangile de Jean, quelque part, démythologise, alors là je rejoins Bultmann, qui connaissait très bien saint Jean, même s'il disait des bêtises qui étaient celles de son époque, sur l'ordre des chapitres. Plus l'évangile de Jean démythologise, il n'y a pas de récit d'exorcisme chez Jean. Tous ces récits qui en appellent à des schémas imaginaires chez Jean sont relativement réduits. Et par contre, la communauté juanique va se permettre d'avoir une apocalypse entière, un texte éblouissant, génial. J'adore l'apocalypse. J'ai écrit aussi dessus. Eh bien, un texte génial. Mais c'est curieux, cette communauté dont l'évangile est le moins apocalyptique des quatre, eh bien, c'est doté d'une véritable apocalypse à plein temps. Et tout ça, vous voyez, ça veut dire que c'est une communauté qui va commencer, ben, comme les autres, hein, avec Jean de Zébédée, à partir de la mort de Jésus, 30, et puis voilà. Hein, et puis qui va se développer, bon, ben, Zébédée, ben, il va mourir. Hein, le disciple bien-aimé va reprendre les choses en main, rappelant qu'il a des titres à cela, ayant été le compagnon très proche de Jésus, etc. Bon, bien, jusqu'au pied de la croix et tout le reste. Hein, bon, il décrit ça, et puis il va reprendre en main, puis lui-même va mourir très vieux, sans être martyr, c'est très clair, c'est dit en Jean 21, car Jean 21 est écrit une fois que Pierre et les disciples sont morts. Ce n'est qu'après la mort des fondateurs que l'on peut faire des actes de réconciliation. Il faut laisser passer la génération des fondateurs. C'est clair. Bon, ils sont morts tous les deux. Et Élisée bien-aimé est mort âgé, donc ça veut dire on est bien là quand même dans une perspective tardive, effectivement, il est mort âgé, Pierre est mort beaucoup plus tôt, bon, et là on règle un peu tout ça, et puis on laisse, alors en Asie mineure, une branche johannique développée, hein. Et il y a des thèmes communs, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, par exemple le thème de l'eau vive et tout ça, on voit bien que l'Apocalypse de Jean, elle connaît l'évangile de Jean, ou du moins elle en connaît certains traits. Mais c'est traité dans un tout autre genre littéraire, qui d'ailleurs est narratif, car l'évangile de l'Apocalypse, c'est, moi, j'ai fait un plantinaire de toute l'Apocalypse, à partir des plantinaires qui fonctionnent dans chacun des épisodes. C'est une sorte de grand film où il y a une intrigue globale qui se redécompose en toute une série de mini-intrigues, ce prodigieux. Et c'est tout en mouvement, parce que c'est un récit. Alors, c'est un récit, bien sûr, qui se projette et dans l'espace et dans le temps. Parce que l'Apocalypse, c'est ça. Pour interpréter le présent, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul. La hauteur, ben voilà, l'axe tertiel, il faut que la voûte céleste s'ouvre, il faut que quelqu'un d'en haut descende pour nous dire ce qui se passe, ou que quelqu'un d'en bas aille voir là-haut ce qui se passe pour mieux comprendre. Et puis il y a tout un système de recul, c'est-à-dire on fait parler un personnage du passé qui parle du présent, mais en utilisant le futur. C'est ça les Apocalypses. Un personnage du passé parle du présent au futur, et parlant du présent au futur, il ouvre évidemment un avenir infini. Car ça peut être le futur immédiat, mais ça peut être le futur eschatologique. Donc c'est tout un art. Il y a des dizaines d'apocalypses, un genre littéraire surabondant dans le judaïsme ancien et le premier christianisme. Et c'est sous l'autorité de Jean que la seule grosse apocalypse chrétienne a été reçu et constitué et reçu. Les liens avec la communauté johannique sont très flous. Sinon, qu'on est quand même dans l'espace autour d'Éphèse, et il y a quand même de grandes chances, quoi qu'en disent certains, de penser que la communauté johannique, eh bien, a fini par s'établir en Asie mineure, du côté d'Éphèse. Mais étant à Éphèse, elle n'était pas toute seule, c'est que Saint-Paul, Éphèse, ça a été finalement aussi l'une des bases les plus importantes des missions pauliniennes et deutéro-pauliniennes. La preuve, elle est aux Éphésiens, aux Colossiens, qui sont dans cet univers d'Éphèse. Et ça ne veut pas dire que la communauté johannique qui se serait finalement établie à Éphèse ne soit pas passée aussi par Antioche, car entre Jérusalem et Éphèse, on passe quand même toujours par Antioche. Et Antioche, eh bien, c'est le milieu où se seraient finalement identifiées les traditions synoptiques, plutôt centrées sur Pierre. Et l'évangile de Jean va être justement, avec son disciple bien-aimé, figure en quelque sorte opposée à Pierre, avant même que dans un geste écuménique prodigieux, on découvre qu'on ne peut pas avoir raison tout seul, je répète ça, et que la communauté du disciple bien-aimé ne pourra survivre à ses propres divisions que si elle accepte. Je ne sais pas un compromis, mais enfin, une communion avec les églises antiochiennes, centrées sur la figure de Pierre. Bon. Il faut savoir aussi faire des concessions, enfin, quelque part, ou du moins entrer dans un climat de dialogue, de communion. Non pas pour des intérêts humains, mais par rapport au seul magistère qui tienne, c'est celui du Christ ressuscité, qui en quelque sorte distribue les cartes, aux disciples bien-aimés la fonction d'auteur, puisque à Pierre la fonction de pasteur, puisqu'il lui dit sois le berger, employons le mot pasteur et auteur, deux types d'autorités qui sont symbolisées par Pierre et les disciples bien-aimés. Alors attention, hein, soyons très prudents, n'anticipons pas sur les situations ecclésiastiques ultérieures. Hein. C'est pareil. Et si je parle de Nazareth et Bethléem, il y a toute l'imaginaire de la crèche. Si je parle de Pierre, il y a tout l'imaginaire de la papauté, qu'on soit pour ou contre. Non, moi, quand je parle de Pierre, je ne parle pas de la papauté, ni pour ni contre. Je parle de Pierre. Bon. Et Pierre, même s'il a effectivement une figure symbolique, le disciple bien-aimé aussi en a une, et Paul aussi en aura une, et d'autres. Une figure symbolique de premier ordre, reconnue comme telle, il ne faut pas pour autant qu'il faut anticiper. Il y aura des développements historiques, on les appréciera plus ou moins selon nos sensibilités. Mais il faut pas fantasmer, c'est pas parce qu'on parle de Pierre qu'immédiatement on doit être dans le contexte des conflits ultérieurs. Comprenez bien. C'est le Pierre de l'Évangile. Voilà.
Oui. En fait, c'est vraiment une question, je vais essayer encore, c'est très simplifié, mais en vous écoutant, oui. Je me suis demandé pourquoi il y aurait trois évangiles assez semblables et un très différent. J'ai fait un rapprochement très maladroit, mais justement, c'est là que je viendrai chercher votre avis. Est-ce que c'est à l'image de ce qui peut passer couramment à la télé ou au cinéma, c'est-à-dire trois films mainstream et un film à réessai?
J'en sais rien, parce que vous savez, les synoptiques, il ne faut pas non plus les prendre à la légère. Marc, on en a fait simplement la source de Matthieu-Luc. Marc est un évangile fantastique, passionnant. Il a peut-être le modèle, la source du schéma narratif synoptique qui est différent du schéma narratif joannique, ça j'y peux rien, c'est clair, mais il est lui-même un évangile extrêmement intelligent et avec une vraie stratégie littéraire. Bon, Luc, c'est pareil. En plus, Luc, il y a acte avec. Au Centre théologique de Poitiers, on fait Luc acte la même année, et on fait Matthieu-Marc l'année d'avant. Hein, on ne fait pas les synoptiques, on fait Matthieu-Marc, ça fait déjà pas mal. Et on fait Luc acte, parce que Luc, il n'existe pas sans les actes. Et on ne peut pas les couper. Donc Luc, c'est un synoptique, mais c'est en même temps le seul qui est une suite dans les actes. Et puis Matthieu, un évangile prodigieux. Moi, de tradition catholique, j'ai été tenté de résister à la toute-puissance de Matthieu, qui dans mon enfance était le seul évangile de référence, et qui effectivement avait l'avantage de proposer une image assez hiératique de l'Église, tu es Pierre sur cette pierre, les 12 apôtres, tout ça, Jésus sur la montagne. Oui, mais quand on travaille à fond Matthieu, c'est l'évangile des béatitudes, c'est l'évangile, tout doit être lu à la lumière de la charte extraordinaire des béatitudes, qui est tout le contraire, évidemment, de la glorification du pouvoir ou de la sacralisation. C'est extraordinaire. Bon, alors, par exemple, j'ai beaucoup travaillé dans un livre contre le cléricalisme, sur Matthieu 23, les diatribes terribles de Jésus contre les pharisiens, et que j'applique aussi aux situations actuelles. Et c'est très fort. Mais en même temps, d'un point de vue historique, il y a quand même, semble-t-il, un schématisme auquel Jean ne succombe pas. Parce que lui, il n'a pas des pharisiens en bloc qui mériteraient le bombardement de Jésus. Il a des pharisiens, il y a des gentils, il y a des pas gentils, il y a des salopards, il y a des braves gens, il y en a qui sont quasiment disciples, donc ils ne savent pas très bien de quel côté il faut se mettre. Enfin, c'est la vie. Okay. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Finalement, Matthieu, pour moi, est moins historique que Jean.
c'est pas pour autant que Matthieu ne soit pas un très très grand évangile. Moi, chaque fois que j'enseigne un évangile, je suis enthousiasmé pour un ou deux, pour l'année entière. Hein. Et je redécouvre que chacun des évangiles, non seulement il a sa ligne, mais il a aussi des contre-pouvoirs quelque part. C'est pas pour rien que ces évangiles-là ont finalement été reçus par l'Église comme bon, les quatre meilleures références pour nourrir la foi des communautés et enraciner notre agir chrétien dans la source indépassable qui est la personne même de Jésus, dans son histoire humaine, vérifiable, enfin, plus ou moins, comme toute histoire ancienne, vous savez, hein, et même moderne. Bon, voilà. Et puis, et le jeu des quatre est formidable, parce que l'idéologie voudrait qu'il y ait un seul texte à apprendre par cœur. Nous avons quatre visages de Jésus, une vision stéréophonique. C'est un Jésus en stéréo. Il y a au moins quatre émetteurs. Mais même à l'intérieur de chacun de ces émetteurs, il y a des couches rédactionnelles diverses, car chaque évangile est déjà lui-même un nœud de débat théologique, historique. Les évangiles ne sont pas homogènes. Il y a à la fois une stratégie très homogène, et en même temps, il y a à l'intérieur toute une épaisseur, qui est celle de plusieurs dizaines d'années de lecture et relecture communautaire de l'événement fondateur, qui fut la rencontre de Jésus jusque dans son mystère pascal, évidemment la clé d'interprétation pour les croyants. Vous voyez, c'est une richesse prodigieuse. Et je répète, c'est tellement fort au plan littéraire que ça mérite d'être le best-seller de la littérature, qu'on soit croyant ou pas. Il faut qu'on se batte là-dessus. La Bible, c'est de la littérature, c'est la plus belle et plus grande littérature, avec d'autres. Et donc, si c'est de la littérature, ça peut être lu par tout le monde. Non pas qu'on veuille forcément les convertir, mais la littérature, c'est fait aussi pour partager des valeurs, partager des expériences, partager. Et avec, faut pas qu'on ait peur du mot littérature. La Bible, c'est de l'histoire, oui, secondairement, vous savez, c'est d'abord de la littérature, avec un fond historique. Mais la Bible, c'est peut-être le best-seller, oui, c'est le best-seller de la littérature mondiale, celle-là l'est. Traduit dans toutes les langues, les dialectes de la Terre comme aucun autre livre. C'est incroyable. Et vendu. Ce serait quand même bizarre que les chrétiens boudent ce livre alors que c'est un des grands cadeaux qu'on a fait à l'humanité, c'est au moins leur avoir offert ça en partage. Sans compter aussi l'architecture, l'art, nos cathédrales quand même, qu'on soit croyant ou pas, ça a de la gueule. Enfin bon, mais dans d'autres cultures aussi. C'est pas un monopole que je dis là. Mais bon, je parle du lieu où je suis. Donc la Bible, c'est... Et moi, vous voyez, moi, je crois maintenant que c'est dépassé, ces histoires de séparer ce qui est historique de ce qui ne l'est pas. Mais... c'est inséparable. En même temps, bon, on va pondérer pour dire, oui, ça, on a l'impression d'approcher le référent historique. Là, on s'en éloigne, mais le texte ne s'en cache pas. Le texte ne s'en cache pas. Chez Saint Jean, c'est très clair. Hein. Il y a un niveau narratif qui est... référer à un référent historique bon, qui nous échappe en partie, mais enfin qu'on peut... Et puis il y a des notes en bas de page, si je peux dire, mais qui sont dans la page, pour dire attention, n'en restez pas là, tu verras plus grand, vous verrez. Ah, bon, et c'est constamment... Bon, le grand prêtre, il a dit une connerie, excusez-moi. Bon, ben, ça fait partie de son histoire. Et puis l'évangile dit, mais finalement, ce qu'il a dit là, ça peut quand même nous dire quelque chose. Vous voyez, on est toujours dans le même truc. Mais pourquoi vouloir séparer ? Articuler. Je ne dis pas qu'il faut confondre. On n'est plus à l'époque où il fallait tout mêler, ni à l'époque où il faut articuler. Articuler ce qui relève de l'événementiel, ce qui relève de l'interprétation. Mais à la limite, aucun récit événementiel n'est dépourvu d'interprétation. Un historien, c'est quand même quelqu'un qui vous dit comment il comprend l'histoire. Autrement, c'est un archiviste. Il édite des colonnes de notes, mais il ne fait pas un livre. Donc aucun historien scientifique ne fait l'économie d'une interprétation qu'il essaie de fonder, de justifier. C'est pareil pour le roman. J'ai parlé des grands romanciers du 19e. Ils sont beaucoup plus historiques que ce qu'on sait de la société bourgeoise du 19e. Pourtant, ce sont des romans de fiction. Si vous voulez étudier la société bourgeoise, enfin, bourgeoise même ouvrière avec Zola, mais Flaubert, Balzac, Zola, etc., vous avez une sociologie incroyable. Et pourtant, c'est des récits de fiction. C'est pas incompatible, voyez. Madame Bovary n'a peut-être jamais existé, mais comme dit Flaubert, il y en a pas mal des Madame Bovary dans certains milieux de la bourgeoisie de l'époque. Vous comprenez? C'est ça. On n'est plus dans ce 19e qui voulait opposer. Il faut. C'est pareil, alors, dans les dialogues interreligieux, judéo-chrétiens ou écuméniques, il faut distinguer et articuler. Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas non plus séparer. Il faut distinguer et articuler. Il y a de dialogue, de communion, que dans la distinction et la rencontre, et le dialogue. Si l'autre est le même, il n'y a plus rien. Hein? Il faut reconnaître l'autre pour autre, pour se reconnaître soi-même, et c'est à travers ce dialogue qu'on se reconnaît. Merci Paul Ricoeur. Voilà, je répète du Ricoeur, hein, sans vergogne.